Ah putain! Putain de bordel de merde! Fais chier! Ah
Salut, il est vendredi, on est 19h et c'est donc l'heure de Frisson sur Canal B. Salut Ludo.
Salut Guillaume, salut à tous.
Ça va ?
Ouais, ça va super bien.
Salut Vivian.
Salut, ça va ?
Vivian, on sait pas trop si t'es animateur ou invité.
Ouais, est-ce que j'ai ramené des gens de ma communauté ?
Oui, et donc bah, comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas d'édito rigolo aujourd'hui pour cause de trop de travail et pas suffisamment d'inspiration. Aujourd'hui est une émission spéciale BDSM et donc nous avons deux invités du conseil municipal. C'est ça ?
Exactement.
Du grand conseil municipal.
Bonjour Ruban.
Enchanté.
Comment ça va ?
Ben, ma foi, merveilleux. Une météo fantastique.
N'hésite pas à te rapprocher du micro.
Je n'y manque pas. Est-ce qu'on m'entend convenablement comme ça ?
Ouais, c'est bien.
Ça a l'air d'être très bien.
Super.
Et bonjour, Dark Lily.
Bonjour.
On va passer une vieillerie de votre choix, de ton choix, Ruban, je pense.
C'est en effet un choix que j'ai fait, qui... Voilà, c'est une vieillerie, mais c'est parfaitement d'actualité, toujours d'actualité, et puis c'est en lien profond avec le thème.
Et après, on entre dans le vif du sujet.
Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râpé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole, et j'ai crié, vas-y mon loup. Fais-moi mal, Johnny, envoie-moi au ciel. Zoom, fais-moi mal, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum.
Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal.
Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Mais fais-moi mal, Johnny, je suis pas une mouche. Fais-moi mal, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum.
Vas-y fais-lui mal.
Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec et il m'a dit, arrête ton char, tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'en refiler de la série noire. Oh, tu me fais mal, Johnny, pas avec les pieds. Si, tu me fais mal, Johnny, j'aime pas l'amour qui fait bing.
Il lui a fait mal, il a fait mal, il a fait mal, il lui a fait mal.
Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu l'escalier en laissant une épaule démise. Pour des voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire des frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses et plus jamais je ne dirai fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Non mais fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Oh Johnny.
Oh la vache, oh, j'en ai marre alors.
Et voilà, c'était Frisson. Alors on n'a pas vraiment fait beaucoup d'émissions sur le sexe, Ludo.
C'est vrai.
On a parlé de sexe
hors antenne, on en parle beaucoup.
Ouais, ouais.
Pas beaucoup, non, c'est même pas vrai, mais non, des émissions consacrées, je ne m'en souviens pas alors.
Voilà, ben il faut une première à tout. Donc Ruban, c'était ton choix. Boris Vian, je crois que c'est Magali, comment elle s'appelle?
C'est une excellente question. C'est le nom de la choriste que tu me demandes?
Ben c'est en fait c'est une chanson écrite par Boris Vian, qui écrivait surtout pour des interprètes. Il chantait assez rarement. Ça date de 1956. Je n'ai plus le nom de l'interprète.
Je ne pourrais pas t'aider, alors, malheureusement.
Okay.
Ma connaissance musicale n'est pas assez pointue.
Faisons comme si je ne t'avais pas posé la question.
Voilà,
mais
pouf, pouf.
Pourquoi ce choix? Est-ce que ça correspond pour toi au BDSM? Et puis,
alors moi, en tant que pratiquant, je trouve cette chanson particulièrement intéressante parce qu'elle elle met vraiment en évidence une incompréhension possible entre un désir qui est exprimé, fais-moi mal, Johnny, Johnny, et un désir qui est mal compris et mal reçu par son interlocuteur, qui s'imagine qu'il s'agit effectivement de violence physique. Et c'est vrai que ça pourrait, on pourrait s'imaginer que c'est le contenu de la demande, mais le type de douleur que demande cette femme n'est clairement pas à associer aux violences domestiques et physiques que cet homme semble avoir à l'esprit quand on lui demande de lui faire mal. Donc voilà, ce que je trouve intéressant dans cette chanson, c'est qu'elle met vraiment en scène cette incompréhension qui traverse malheureusement tout le milieu et qui nourrit, disons, les préjugés négatifs que les gens peuvent avoir sur les pratiques BDSM.
Tu es d'accord, Dark Lily ?
Je trouve très intéressant cette analyse parce que moi, je l'avais découverte seulement il y a quelques jours, cette chanson, et moi, j'imaginais une autre scène. J'imaginais une femme qui demandait simplement une expérience sexuelle fougueuse, sauvage. Mmh. Et c'était sa façon de le demander et que le gars en face n'a pas pu maîtriser son énergie.
Il est allé trop loin.
Et qu'il était un peu trop bourrin. Et que du coup, il lui a fait mal pour de vrai. Alors que c'était pas vraiment ça qu'elle demandait. Moi, je l'ai compris comme ça, mais en écoutant ce que dit Ruban, je me dis, mais c'est tout à fait...
Il se trouve que ça répond à des situations, des témoignages que j'ai pu collecter de personnes qui se sont retrouvées dans cette situation, de quelqu'un qui leur demande d'être plus fougueux, plus physique, et qui ne savent pas comment interpréter cette demande, qui sont à la fois, ça va contre leur éducation et contre tous leurs principes. Et donc, y a un moment d'incompréhension, là, qui... Pourtant, je crois qu'il existe un chemin pour comprendre la demande qui est exprimée et être capable de la recevoir comme elle est exprimée, quoi.
Alors, en parlant de chemin, peut-être... Peut-être vous pouvez commencer par nous raconter qui vous êtes et ce qui vous a amené à pratiquer le BDSM. Et d'ailleurs, on n'a même pas vraiment défini le terme. Je crois qu'il fait un peu polémique. Tout le monde n'est pas forcément d'accord sur le sens.
Alors, je serais ravi de déplier cet acronyme qui est un petit peu touffu. Dont on peut se demander s'il est véritablement fondé dans sa conception. Le B de BDSM vaut pour le bondage. Le bondage, quand un francophone entend ce mot-là, il s'imagine qu'il est question de contrainte physique. on associe ça aux attaches, à la restriction physique. Mais pour les anglophones, le terme bondage a une connotation plus large, qui vient de leur histoire médiévale, et qui qualifie le lien qui s'établit entre un seigneur et son féal. Donc c'est une relation d'abord abstraite, c'est d'abord un lien, une association abstraite, qui ensuite a pris progressivement le sens de contrainte physique, attachée avec des cordes, avec des ceintures, avec des... Donc la contrainte pendant la relation sexuelle, voilà malheureusement à quoi c'est un petit peu réduit le terme de bondage aujourd'hui. Le D de BDSM vaut, pour certains, signifie domination, pour d'autres, signifie discipline. Donc il y a des débats internes à l'intérieur de la communauté, il y a des gens qui choisissent de charger ce D d'un sens différent. Le S, lui aussi, a une valeur double, il vaut pour évoquer la soumission sexuelle, sexuelle ou pas sexuelle d'ailleurs, la soumission, et le sadisme. Là, c'est deux termes qui sont vraiment pas proches, qui n'ont même pas grand-chose à se dire mutuellement, quoi. Donc c'est un peu compliqué, cette superposition des S. Et enfin, le M vaut pour masochisme. Là aussi, le masochisme, il faudrait en parler en détail, parce que on associe...
On aura le temps d'y revenir, ouais.
Voilà, on associe spontanément le masochisme au plaisir ressenti dans la douleur. Ça c'est l'algolanie. Il y a un terme déjà spécifique pour ça. Donc le masochisme, c'est plutôt la recherche du plaisir dans la souffrance, au sens soit physique, soit psychologique. Donc il peut y avoir une dimension d'humiliation, par exemple, qui serait vécue comme une douleur morale, on va dire. Et de l'autre côté, les pratiques qui génèrent des douleurs physiques, qui sont, voilà, comme je le disais, l'algolanie.
Mais peut-être, bon, je vous propose peut-être de revenir un peu sur les définitions et ce que ça recouvre en termes de pratiques plus tard. Donc, toi, Dark Lily, qu'est-ce que tu veux bien nous dire de toi? Tu te définis comment? Pourquoi t'es là, quoi?
Je suis là parce que j'ai été gentiment invitée par Ruban, qui m'a dit que ce soir on allait parler BDSM et que c'était l'occasion d'expliquer comment je suis entrée dans ce monde-là, pourquoi j'explore cet univers-là.
D'accord.
Et donc
comment la rencontre s'est faite? Comment est-ce que tu as découvert ce milieu-là? Est-ce que tu peux nous en
déjà,
faire le récit?
Déjà, peut-être la première fois que tu as eu l'idée, ou comment est-ce que tu as peut-être lu Sade, ou alors tu as vu un film, ou alors quelqu'un t'a parlé, comment?
En fait, sans rien avoir lu, je me souviens que dès l'adolescence, j'avais déjà des fantasmes de contraintes dans l'intimité, dans la sexualité. Mais je ne connaissais pas du tout cet univers. Je me rappelle avoir eu des attirances pour ça, mais être complètement dans l'inconnu. Et c'est en 2022 ou 2023, je ne sais plus, que j'ai vu une publicité pour un atelier de Shibari dans une boutique BDSM à Paris.
Tu peux expliquer un peu, Ludo et moi on sait très bien, mais pour les auditeurs, Shibari.
Alors le Shibari est à l'origine un art japonais, un art de la guerre japonais. Aujourd'hui, il est plus utilisé d'une manière soit artistique, soit érotique, soit encore juste pour vivre des moments presque de soins, en fait. On utilise des cordes en fibres naturelles et on s'en sert pour s'attacher, se contraindre, se sentir contenu. Enfin, on peut l'utiliser pour plein de choses différentes, en fait. Et là, il y avait un atelier de proposer dans une boutique bien connue à Paris. Et j'ai fait l'aller-retour juste pour ça, de la Bretagne jusqu'à Paris, pour cet atelier. Et j'ai adoré cette expérience.
D'accord.
Je ne l'ai pas pratiquée pendant les années qui ont suivi, jusqu'à ce que je commence une formation. Quelques mois après, une formation où on apprenait les érotypes. Et on y apprend énormément de choses, y compris les façons de se connecter intimement d'une manière transgressive, comme on le dit dans le vocabulaire de cette formation, donc les sexualités non conventionnelles. Donc là, j'ai commencé à être initiée à
Et
à
c'est, tout ça. C'est une formation qui est dispensée par une association, par...
Non, par une super chercheuse française qui s'appelle Laura Pinson.
D'accord.
Et qui a fait plus de 10 ans de recherche sur 3 continents différents. Et elle a observé qu'on avait plusieurs énergies en nous, plusieurs forces de vie, que c'était universel, que chaque être humain était porteur de ces énergies-là. Et que lorsqu'on a l'érotype transgressif qui nous influence beaucoup dans notre sexualité, on peut être attiré par le BDSM, entre autres.
D'accord.
Voilà.
Donc, je dirais, voilà, plutôt une approche, au départ, intellectuelle, quoi. Une envie de te sonder toi-même.
Une envie d'explorer.
T'as pas commencé par sortir dans un club, t'as commencé par une formation.
Ouais.
Enfin, il y avait au préalable un désir à l'adolescence. C'est ensuite que la formation et un certain discours est venu rencontrer ce désir. Mais le désir était premier.
Oui. Oui, mais j'avais senti aussi dans mon couple de l'époque le plaisir quand mon partenaire mettait sa main sur mon cou et commençait un peu à m'étrangler. Je sentais que ça m'excitait, que j'aimais ça. Ou quand il avait des paroles qui montraient un peu une autorité, ça me plaisait beaucoup. Et du coup, j'avais envie d'explorer ça, j'avais envie d'aller plus loin. Et cette formation m'a apporté tout ce qu'il fallait pour déjà nourrir mon mental à cet endroit-là. Et puis me sentir en sécurité pour aller explorer plus tard toute seule. Et après, c'est moi qui toute seule suis allée dans des milieux, je suis allée en club libertin toute seule pour découvrir ce que c'est. Et plus tard encore, je suis allée dans un festival de tantra où j'ai découvert le shibari tantrique, donc avec une autre intention. Et pour la première fois, c'est moi qui ai encordé quelqu'un, alors que jusque-là, c'était toujours moi qui étais encordée.
D'accord.
Et là, je me suis dit, en rentrant en Bretagne, je voulais absolument avoir des cours de shibari pour pouvoir pratiquer. Donc j'ai appelé le club libertin près de chez moi pour leur demander s'ils connaissaient un prof de shibari. Ils m'ont dit, non, mais allez sur tel réseau social et là, vous trouverez votre bonheur. Donc je me suis inscrite sur cette plateforme. Je ne sais pas si je peux la nommer ici.
Bah si,
bien sûr.
C'est Fet Life.
D'accord.
Et là, pendant quelques mois, il ne s'est rien passé, mais ensuite j'ai vu qu'il y avait un Munch and Play proposé pas très loin de chez moi.
Munch and Play, donne ma langue au chat.
Ça demande peut-être un petit cadre, une explication pour les personnes qui n'en ont jamais entendu parler. Un Munch, dans le contexte BDSM, c'est une rencontre d'information. Un moment qu'on propose dans un lieu public pour... mettre en commun, disons, les parcours, les recherches des uns et des autres, et puis essayer de dispenser ici et là quelques conseils de sécurité un peu pour avoir un parcours qui soit le plus harmonieux possible à l'intérieur du BDSM, quoi. Et certains de ces munchs se concluent par un petit moment de pratique, et donc on crée cette association d'un munch and play. Puisque précisément le vocabulaire américain s'est invité beaucoup dans le BDSM ces 10 dernières années du fait de la prééminence de ce site là, Fet Life, un site canadien qui agit culturellement sur le milieu et fournit des termes malheureusement souvent anglo-saxons alors que leurs équivalents français existent. Ils sont tout à fait pertinent, mais il y a un effet de domination culturelle qu'on ne peut que constater, qui nous vient d'outre-Atlantique. Et donc le Munch and Play, c'est un moment où on peut, à sa guise, discuter, collecter quelques informations, et si on s'en sent le courage, passer à la pratique.
Ok. T'as des questions, Vivian ?
Non.
Non,
non, je me demandais si toi t'auras des questions ou si moi j'y échapperai.
Non, mais je découvre. Alors j'ai été alimenté avant cette émission, notamment par Vivian qui a quand même écrit quelques articles sur le sujet. Ruban, j'ai lu aussi le une sorte de récit anecdotique, autobiographique d'un certain maître Georges.
Alors, c'est juste, moi j'ai un parcours très très particulier dans ce milieu. Je dois faire un effort pour me représenter ce qu'a pu être le parcours de Dark Lily, par exemple, parce que pour moi personnellement, ça s'est passé d'une manière très différente. Je n'ai pas vraiment eu le temps de me poser des questions à propos du BDSM. C'est simplement, j'ai découvert à l'âge adulte, à 26 ans, que mon père était très engagé dans ses pratiques et qu'il avait même constitué autour de son action, une communauté, la communauté du Triskel, qui...
C'est-à-dire, il a fait une sorte de coming out en famille.
Exactement, c'est-à-dire qu'il a réuni ses enfants une fois qu'ils étaient tous adultes pour pouvoir leur dire, écoutez, il y a toute une facette de mon existence que vous ignorez.
Parce que Maître Georges, donc là, est ton père.
C'est ça. Donc, je l'ai découvert. Je l'ai découvert vraiment dans ces circonstances-là, c'est-à-dire une réunion de famille. J'ai quelque chose à vous dire, quelque chose qui m'importe.
Et alors, la réception
Elle a été extrêmement variée, parce qu'on est une fratrie, c'est une famille nombreuse, hein, donc il y a eu tout un arc-en-ciel de réactions différentes. Mais la mienne, ça a été c'est quand, c'est où
je veux, c'est à quelle heure
C'est ça, je veux le voir, je veux savoir de quoi il s'agit. Voilà, moi j'ai toujours été assez curieux des milieux underground et interlope, tous les espaces un peu cachés.
Mais tu dis que tu avais 26 ans quand ton père fait cette révélation, ça veut dire avant tu avais été attiré
Avant j'avais des un peu à la manière de Dark Lily, j'avais des pratiques un peu que j'appelle aujourd'hui un peu sauvages, c'est-à-dire que je faisais des choses dans ma vie intime que je m'expliquais mal et dans lesquels je n'avais pas de contexte et rien à quoi les raccrocher, surtout aucun interlocuteur, personne à qui en parler. Et donc, y avait des désirs qui me traversaient, mais dont la majeure partie, je les gardais pour moi, parce qu'il me paraissait impossible qu'un partenaire puisse y trouver son intérêt et puisse me dire oui. Donc à partir de là, je m'étais... résolu à abandonner, en fait, garder ça dans un petit coin de ma psyché, et puis tant pis, quoi. Mais cette révélation-là m'a offert une voie, vraiment, je peux le dire rétrospectivement, royale, pour découvrir ce monde dans sa meilleure version. C'est-à-dire que, voilà, quand j'ai demandé « c'est où, c'est quand ?», mon père m'a répondu « je fête mon anniversaire ». Dans un mois et demi, tu n'as qu'à venir et puis tu verras bien.
Et t'avais pas envie de tester, mais genre dans des soirées où il était pas. Ouais, voilà.
Alors ça m'a effectivement posé un certain nombre de questions. Je me suis demandé où est-ce qu'on est sur la carte de l'inceste là.
Mais c'était le sous-entendu de ma question.
En réalité, c'est des soirées qui ce qui m'a frappé le plus fort quand j'ai découvert
c'est ton père.
C'est le degré de civilité, de civilisation même de ces soirées-là. C'est-à-dire que c'est des soirées où on veut rendre possible des choses qui sont absolument extraordinaires au sens hors du commun. Et c'est pour rendre possible ces choses-là, il faut un degré d'explicitation dans les relations humaines, de littéralité. Faut être capable d'exprimer son désir avec une telle clarté qu'il emporte l'adhésion de l'auditeur, que l'auditeur est d'accord d'essayer, parce que c'est demander sans arrière-pensée, sans agenda caché. Et moi, ça m'a frappé de civilisation, en fait. Je me suis dit, voilà la sexualité, le type de sexualité que j'aurais aimé traverser comme adolescent, plutôt qu'un espace plein de non-dits et de sous-entendus et de difficultés à savoir ce que veut ou ce que pense l'autre même de soi. Donc, et là, tout d'un coup, on me présente un monde où, si on a le cran et le front de demander, on a de bonnes chances d'obtenir. Et ça m'a énormément marqué, parce que c'est des lieux où la nudité est possible, par exemple pour une femme, pendant toute la soirée, sans que jamais ni un geste déplacé, ni un regard même désagréable, un male gaze, ne puisse se poser sur la personne. C'est vraiment un lieu de respect de la particularité de l'autre.
Mais alors, enfin, je trouve ça très intéressant ce que tu racontes, mais je me demande s'il n'y a pas une contradiction aussi, c'est-à-dire que d'un côté il y a l'évocation de la souffrance comme pouvant devenir un plaisir. Quand on n'y connaît rien, on imagine, bon, on a parlé de bondage, mais on imagine le martinet, le fouet, etc. Et en même temps, toi, tu mets en avant ce sentiment, au contraire, de grande sécurité. Est-ce qu'il y a une contradiction, ou comment elle est gérée?
Il y a effectivement un paradoxe, mais qui n'est pas une contradiction. C'est-à-dire, c'est vrai d'énormément de choses dans le BDSM, c'est-à-dire que la manière dont les choses se présentent à nous doit être repensée, réfléchie, parce que il y a souvent des inversions internes. En réalité, il y a quelque chose de l'ordre du carnaval. C'est-à-dire que les rôles qu'on se donne, qu'on prend en charge, vont complètement renverser la réalité qu'on traverse. Comment expliquer ça d'une manière très claire? C'est un peu comme de porter un costume trois pièces. Quand on porte un costume trois pièces, on se sent un petit peu ridicule de tout d'un coup changer de manière de se vêtir. Mais on se rend compte rapidement que quand on porte un costume trois pièces, on se comporte différemment. On se comporte d'une manière qui honore le costume dans lequel on se trouve. C'est-à-dire qu'il y a une transformation de soi qui s'opère par la fabrication du personnage qu'on met en scène. Et donc tout cela est très... c'est une scène symbolique. C'est une scène... c'est vraiment un espace qui n'est pas tout à fait la vie, qui n'est pas tout à fait le théâtre, qui est à mi-chemin entre ces deux espaces. Et donc ça peut être très transformatif sur la vie personnelle, parce que c'est à la frontière entre ces deux mondes, quoi.
On s'offre une petite pause musicale avant de poursuivre, c'est ça Ludo ton signe?
Oui, c'est ça, oui.
Ok, je t'ai dénoncé.
Il y a rarement eu une émission aussi sérieuse. Même avec Marie Messmer, on était plus détendus.
On veut pas plomber l'ambiance non plus.
Mais non, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on écoute?
Eh bien, moi je proposerais volontiers qu'on entende Fistful of Love de Anthony and the Johnsons. Et pour les anglophones, tendez l'oreille et appréciez le propos de l'artiste. Et vous verrez que... ça parle de BDSM et ça parle d'amour aussi.
I was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars, when it suddenly hit me. I just have to let you know how I feel.
Live together in a photograph of time. Now look into your eyes and the seas open up to me. I tell you I love you. Symbols of your devotion. So I'm left to pick up the hints, the little symbols
of your devotion. And I feel your field.
Frissons avec les membres de l'Anneau de Justine, donc association liée à la communauté BDSM. Et donc on parlait notamment juste avant cette pause musicale des raisons qui font que des gens peuvent rechercher des formes de douleur ou de souffrance, des raisons à la fois subjectives ou peut-être plus philosophiques. Je ne sais pas si Dark Lily, par exemple, tu as des choses à en dire.
Oui, des choses que j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir, à comprendre au travers de cette formation dont je vous ai parlé. C'est que déjà, dans le cerveau, apparemment, la zone de plaisir et la zone de douleur se touchent. Ce qui fait que faire la différence entre une sensation de plaisir et une sensation de douleur peut être parfois compliqué. Et du coup, voilà. rien que d'avoir une douleur peut faire ressentir finalement du plaisir. Et puis il y a aussi le fait que dans notre passé, on a tous eu un certain rapport à l'autorité. Et donc on a tous eu des moments où on a été dans l'impuissance, où on a été puni, où on nous a interdit des choses. Et le fait d'aller rejouer une scène de souffrance, de douleur, où on avait perdu notre pouvoir et notre puissance, bien ça permet d'en reprendre le contrôle. C'est-à-dire, ok, maintenant j'ai mal, mais c'est moi qui le choisis. Et je choisis l'intensité, je choisis la durée, je choisis quoi, quand, qui.
Ouais, justement, à ce sujet, un des livres de la littérature BDSM qui va le plus marquer, c'était celui de Vanessa Durias, qui s'appelle Le Lien, donc qui était une jeune femme qui a écrit ça, elle avait une vingtaine d'années, elle est morte très jeune d'un accident de voiture d'ailleurs quelques années plus tard. C'était dans les années 90, et le livre commence notamment par une rupture familiale quand sa mère découvre, en fouillant dans ses affaires, des photos d'elle dans des séances SM. Et le livre parle notamment des violences donc, que cette jeune femme a subies dans son enfance. Mmh. Et je trouvais le geste très intéressant. Déjà, c'est une manière de renvoyer la société à sa propre responsabilité. Mmh. Sur des sujets qui ont rien à voir avec le BDSM, mais par exemple dans les mémoires de Jacques Mérine, par exemple, c'est quelque chose qui m'avait intéressé. Quand il dit à la société, mais qui êtes-vous pour juger, en fait? Vous me reprochez d'avoir séquestré quelqu'un alors que vous mettez des milliers de gens en prison. Mmh. Et d'ailleurs, vous me reprochez d'utiliser les armes, mais c'est l'État, en fait, qui m'a envoyé à l'armée et qui m'a appris à manier les armes. Et en fait, que faites-vous, vous qui jugez, en fait? Et donc là, à ce moment-là, de renvoyer le pouvoir familial à ses propres responsabilités, à sa propre violence qui là pour le coup n'est pas consentie, et avec ce truc de qui êtes-vous pour juger, et aussi de montrer l'origine d'un désir, parce qu'en fait dans une littérature SM peut-être un peu plus ancienne, la soumission féminine n'était même pas questionnée. Par exemple, dans Histoire d'eau, on n'explique pas pourquoi une femme est soumise, parce que c'est un texte des années 50, je crois, et en fait, la question limite se pose même pas, en fait. C'est à partir des années 80-90, justement, des textes écrits par des femmes parlent justement de pourquoi ce désir de soumission et du fait de reprendre
Histoire d'eau,
du
c'est une autrice
C'est une autrice,
ouais. Ouais, c'est Pauline Réage.
Alors, ce qu'il faut savoir d'Histoire d'eau, hein, c'est que ça a été écrit par Pauline Réage pour plaire à son amant. Mais qu'elle n'avait, elle n'a jamais rien vécu quand elle écrit ce livre qui est l'Histoire d'eau, qui est fondateur pour la génération qui nous précède, hein, qui a été leur équivalent du Fifty Shades of Grey, et qui est quand même de qualité littéraire bien meilleure. Ce texte-là, il est écrit par quelqu'un qui ne se nourrit que des fantasmes et des idées qu'elle se fait sur ce milieu. C'est pas en confrontation avec une expérience directe. Et donc, c'est vraiment un petit présent qu'elle fait à son amant et qui aura connu un énorme succès de librairie simultané d'une interdiction dans pratiquement tous les pays du monde. C'est-à-dire que c'est un ouvrage qui a été mis à l'index partout sur la planète, parce qu'il contient justement, comme tu le disais Vivian, quelque chose de très corrosif pour la société. C'est que si on choisit librement son maître, on ne respecte plus les maîtres qu'on a choisis pour nous. Et donc il y a ce renversement en fait qui reste à l'œuvre encore aujourd'hui.
À cette époque, j'ai un moment que ça reste implicite dans Histoire d'eau, alors que ça devient explicite dans une autre littérature SM à partir des années 80-90, où à la fois on explicite la raison du désir et aussi on explicite cette forme d'ironie qu'il y a, c'est-à-dire de montrer qu'il y a quelque chose de l'ordre de la mise en scène, de l'ordre de l'arbitraire dans la domination et la soumission, c'est-à-dire que ce sont des rôles, et donc si on extrapole, ça peut venir justement reconfigurer tout un discours disant que si les gens sont à leur place, c'est parce que c'est leur nature ou c'est parce qu'ils l'ont mérité, etc. Là justement, en caricaturant les rapports de pouvoir, le SM peut nous pousser à montrer le caractère quelque peu arbitraire ou de l'ordre du rôle des rapports de pouvoir, et aussi en les explicitant, il peut devenir une source de plaisir, parce qu'en fait, dans nos relations, dans nos formes de désir, à des degrés divers, mais on est toujours influencé par des formes de pouvoir. On trouve une personne attirante parce qu'elle parle bien, parce qu'elle a fait tel ou tel acte en public ou en privé, parce qu'elle se met en avant, parce qu'elle a des formes de savoir, de relations sociales, etc. Enfin, y a énormément de formes de micro-pouvoir dans toutes les interactions. Enfin, faire rire quelqu'un, ou allumer la lumière, ou parler de telle manière, ou conseiller telle œuvre, c'est une forme de pouvoir. Et donc, l'expliciter, ça, ou jouer de dessus, ça peut être une forme de pouvoir et aussi de renversement. Enfin, tu parlais tout à l'heure justement du carnaval. Et j'ai un manque dans. Dans le SM, il y a, enfin, je dis, j'ai l'impression que je ne l'invente pas, mais il y a quelque chose de l'ordre de. On est quand même souvent sur un fil, c'est-à-dire que la personne qui se soumet va avoir une sorte de demande. Demande d'avoir soit telle ou telle pratique, soit telle ou telle relation, etc. Et la personne qui la domine va en partie se soumettre à cette demande de la personne qui se soumet. Et en même temps, il faut quand même instaurer une domination. Et c'est pour ça justement qu'il va y avoir parfois, souvent des discussions avant sur par exemple les pratiques qui vont être acceptables ou non. Aussi, il y a dans des pratiques très souvent, pas toujours, hein, chacun fait bien ce qu'il veut, mais souvent un safe word, c'est-à-dire un mot qui signifie là il faut arrêter, là, c'est-à-dire c'est pas comme dire j'ai mal ou la personne qui domine peut dire fais un effort. Non, là ça veut dire stop, on arrête vraiment.
Moi je connais le safe word de Ludo.
C'est quand il dit là on fait une pause, on met de la musique.
Ananas.
et donc le safe word, donc il sert à donner une plus grande liberté pour que justement la personne qui domine puisse à la fois se soumettre à la demande de la personne qui se soumet, mais en même temps aller quand même assez loin. C'est-à-dire que si on veut vraiment que les deux prennent du plaisir, l'un à être dominé et l'autre à dominer, il ne faut pas exactement que ce soit uniquement ce que la personne qui est dominée demande. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose un peu en plus, soit un peu plus, soit une pratique un peu différente, etc. Mais en même temps, il faut qu'il y ait quand même une prise de risque, qu'il y ait une forme d'autorité. Et en même temps, on peut ou on doit baliser ça pour à un moment qu'on ne soit pas dans le déferlement de violence, ou alors dans quelque chose qui même involontairement va faire violence à l'autre parce qu'il ne s'attendait pas à ce que ça aille à ce point-là, etc.
Moi, ça me fait beaucoup penser au jeu de rôle.
Alors c'est un jeu de rôle.
Voilà,
c'est un
ça.
Jeu de rôle pour adultes.
Avec l'idée que dans le jeu de rôle, le fait qu'on soit en train d'incarner un rôle et donc de jouer doit un petit peu s'oublier, sinon évidemment ça perd tout son sel.
Tout son sens.
Mais là il y a un vrai plaisir, un vrai désir, c'est-à-dire que c'est quand même vraiment nous, quoi. D'un sens c'est un jeu et de l'autre côté c'est vraiment notre propre désir et notre propre personne.
Là, par rapport au jeu de rôle, je voudrais apporter une petite nuance, c'est que c'est un jeu de rôle qui est effectivement transformatif. C'est-à-dire que c'est un jeu de rôle qui a un impact sur notre vie réelle de tous les jours. Et donc c'est un jeu de rôle particulier parce que c'est un jeu de rôle où il y a des enjeux authentiques. C'est-à-dire que dans ces relations-là, on se transforme dans le sens où on se découvre, on conscientise ses désirs et au lieu de les maintenir dans une zone un petit peu floue qu'on ne regarde pas, eh bien on les prend bien en tête. On les assume, on commence par les assumer, et ensuite on voit quelle part dans ces désirs est potentiellement, quelle est la part qu'on peut mettre en œuvre concrètement. Évidemment, il y a une part qui reste absolument fantasmatique et qui doit le rester, quoi, qui c'est des idées comme ça, parasites, qui traversent l'esprit, qui sont irréalisables, mais il y a une partie de ces idées qui peuvent avoir lieu. Et quand ces idées-là, on arrive à les mettre en œuvre, on récupère sur son existence un pouvoir réel, authentique, qui n'est pas juste une symbolique de pouvoir. On est dans l'action, on est porté et tourné vers l'action. Et à ce moment-là, on est obligé de se rendre compte que le rêve qu'on a fait, la fantaisie qu'on avait en tête, nous a transformé concrètement, physiquement, comme personne, comme individu. Et donc, c'est un jeu, mais c'est un jeu particulièrement important. C'est un jeu, c'est comme la roulette russe, quoi. C'est un jeu où il ne faut pas y jouer à la légère.
Donc, tu sembles partager, Dark Lily, mais tout à l'heure, tu avais des propos qui étaient presque de l'ordre du thérapeutique.
Ah oui, complètement. Pour moi, ces jeux-là ont vraiment une fonction thérapeutique. si on le souhaite. Et c'est ce que j'ai expérimenté. Tout à l'heure, Ruban parlait de la comparaison avec le carnaval. La fonction du carnaval, c'était d'apporter un rééquilibre dans la psyché de tout le monde et de la société. Ça permettait, en fait, si pendant toute l'année, on a une posture de maître ou une posture d'esclave pour de vrai, eh bien, ce jour-là, on pouvait inverser les rôles. Et ça faisait une soupape. Les hommes pouvaient se déguiser en femmes et inversement. Et ça faisait du bien, en fait. Et du coup, ça soulageait. Et ça donnait l'impression, j'imagine, que quelque part, on reprenait contrôle aussi sur sa vie. Et puis, dans mon expérience aussi, j'ai remarqué l'aspect thérapeutique de ces jeux-là.
Ça veut dire que pour toi, tu expliquais, enfin j'ai retenu que tu expliquais que peut-être il y avait le fait de rejouer des humiliations, des punitions vécues dans l'enfance, mais en les rejouant volontairement, donc en reprenant en fait le contrôle sur ces, je sais pas si on peut dire traumatismes de l'enfance. Et donc toi, tu fais un travail parallèlement, ça veut dire que tu comprends des choses qui se sont jouées dans ton enfance grâce aux pratiques aujourd'hui, et tu as la sensation de te réparer ou de...
Complètement, oui. Oui, déjà, j'ai le fait de me permettre de m'adonner à ces jeux-là fait que je trouve à l'intérieur de moi l'énergie de l'audace d'aller au-delà de mes propres limites ou des limites extérieures. Et ça fait que dans ma vie au quotidien, je peux maintenant, je sais où trouver cette énergie en moi pour aller au-delà. Déjà, ça, c'est énorme.
Moi, j'ai l'impression que c'est un discours qu'on entend. Et en travaillant un peu l'émission, je me rendais compte aussi dans ce qu'on trouve sur Internet ou dans les livres qui sont proposés. Parfois, il peut peut-être y avoir un peu une dimension... un peu développement personnel qui, moi, me parle pas du tout.
Alors, moi je n'oserais pas le terme thérapeutique. C'est-à-dire que quand on parle de thérapeutique, il y a une recherche de soins, de retrouver un équilibre sur un point donné. Mais on ne peut pas vraiment savoir ce que le BDSM va nous apporter avant de l'expérimenter. Et donc, c'est plutôt une démarche d'épanouissement. Et effectivement, l'épanouissement soigne. C'est-à-dire que quand on vit ses rêves, on est globalement plus heureux que quand on rêve sa vie. Et donc là, c'est un peu ça l'enjeu. C'est-à-dire que ça nous oblige à conscientiser les rapports de pouvoir qu'on subit. Ça nous oblige à conscientiser le pouvoir qu'on exerce, la part arbitraire du pouvoir qu'on exerce, et ça nous permet du coup d'isoler la part de pouvoir qu'on exerce et qui a du sens. Là, je parle du côté du dominant. Donc, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un grand bouillon de choses un peu abstraites, eh bien, on dissocie les choses qu'on choisit de mettre en valeur, qu'on choisit de derrière lesquelles on se tient véritablement, quoi. Donc, c'est voilà, c'est ça, globalement, quand ça se passe bien, ça fait du bien. Et donc c'est d'où la tentation d'appeler ça thérapeutique. Mais je pense que si on vient avec l'idée de soigner tel ou tel aspect de sa personnalité dans ce contexte là on risque d'être déçu. Il y a quelque chose d'autre qui va se passer, mais peut-être pas ce qu'on attend, quoi, ce qu'on en met en...
Oui, c'est pas systématique, hein. Ouais, ça dépend de l'intention.
Ouais, c'est un peu la petite nuance que je poserai là, quoi. En tout cas, c'est, pour reprendre ce que tu disais, Vivian, ça restaure une puissance qui est opérante. C'est-à-dire qu'il y a une échelle qui est à l'échelle de ce que chaque individu peut et qui lui rend les moyens que la symbolique lui retire perpétuellement, quoi. C'est-à-dire que presque partout, on nous fait sentir qu'on est impuissant, superflu, isolé, incapable de quoi que ce soit. Là, tout d'un coup, on se rend compte que si on y met un petit peu de notre volonté, de notre temps, on peut concrétiser des rêves. Donc peut-être que là, il y a un espoir pour des actions collectives même.
Ouais, je pense que depuis tout à l'heure, on est un peu sur un fil parce qu'à la fois, on cherche à rendre l'expérience partageable et compréhensible à des personnes qui ne la vivraient pas. Donc on est obligé un peu de monter en généralité et de dire, ah bah, vous pouvez bien comprendre parce que visibiliser le rapport de pouvoir qu'on a tous subi et puis tel élément où ça peut mettre un traumatisme à distance ou en faire autre chose ou aussi un truc dont on n'a pas parlé, c'est simplement vivre son corps différemment. C'est-à-dire un plaisir sexuel ou physique qui soit pas localisé dans certaines parties du corps génital, mais qui traverse la totalité du corps ou qui nous fasse vivre ou ressentir notre corps différemment. Ça, c'est un truc dont on peut parler. Après, c'est vrai que moi, j'ai toujours une sorte de méfiance pour plusieurs raisons vis-à-vis des discours qui vont à tout prix vouloir nous en montrer l'intérêt. D'abord, je me dirais qu'une relation, elle a pas d'autre but qu'elle-même. Voire, je peux me méfier des gens qui vont dire « Mets-toi en relation avec moi parce que je vais t'apporter ça, je vais t'apporter ça et grâce à moi, tu te sentiras mieux. » Bon, c'est un peu un red flag, comme disent les jeunes.
Ouais, tout à fait.
Et aussi, ou alors on peut l'interpréter quand des gens vont dire, je sais pas... Être en relation avec quelqu'un qui m'a ordonné d'arrêter de fumer, ça m'a aidé à arrêter de fumer. Bon bah oui, mais dans quelle mesure mettre ça en avant, par exemple, ça va pas être chez des gens une manière de se justifier auprès de la société pour dire non, mais cette relation que vous dites bizarre et pathologique, bah m'a servi à être mieux, en meilleure santé ou à faire quelque chose qui est plutôt bien vu, arrêter de fumer, donc arrêter de m'emmerder quoi. Il peut y avoir de ça. C'est pour ça que justement moi j'ai préféré prendre le contre-pied en parlant de Vanessa Duriez qui juste renvoyait la société à sa propre responsabilité sans montrer patte blanche. Et aussi, moi il y a un truc qui m'inquiète un peu ou alors déclenche en moi un certain agacement, c'est à l'intérieur du milieu BDSM une volonté d'avoir l'air respectable en le visibilisant et en le normalisant, avec toute la polysémie qu'il peut y avoir dans le terme normaliser, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit moins stigmatisé mais aussi faire en sorte que ce soit plus normal. Et si on fait des analogies avec toute l'histoire en fait de la sexualité, on voit que le fait de visibiliser des pratiques, ça va souvent avec le fait de porter dessus un discours médical, un discours juridique, de visibiliser certaines choses et pas d'autres, donc pas les pratiques les plus bizarres, pas les pratiques les plus minoritaires, pas celles des communautés les plus précaires, les plus marginalisées, etc. Et aussi les mettre en discours, c'est-à-dire dire comment faut faire, dire ce qu'il faut faire, tenir un certain discours autour de la sécurité et surtout autour de l'intérêt. Et on entend tout un charabia, par exemple, de personnalités un peu médiatiques, type Axel de Sade, par exemple, qui était la semaine dernière sur Radio Nova, ou qui passe dans Combini parce qu'elle a un discours calibré pour Combini, en fait, à base d'un charabia de développement personnel, du genre devenir la meilleure version de soi-même, etc. Et c'est-à-dire, et par ailleurs, elle a créé une entreprise, par exemple, elle vend des formations pour dire ce qui doit être le BDSM, et ensuite, elle va calibrer un discours pour vendre son machin. Mais on peut se dire, moi, c'est pas n'importe quelle partie de la communauté BDSM qui va en créer une entreprise, c'est pas n'importe laquelle qui va passer sur Combini. Évidemment, elle va visibiliser certains trucs un peu propres sur soi, elle va, au nom de l'autorité, au nom de la peur de l'agression, dire comment il faut faire, dire ce que ça doit être, et elle va avoir le discours calibré pour passer dans certains médias, du genre la meilleure version de soi-même, c'est-à-dire en gros être plus productif, être un être plus stable pour fonctionner en société. Et c'est pas ça qui m'intéresse.
Ouais, j'entends ce que tu dis, mais c'est vrai que moi j'ai parlé de l'aspect.
Non, c'était pas du tout ça.
Ouais, mais j'entends ce que tu dis et c'est intéressant parce que moi j'ai mis ça en avant parce que c'est mon dada. En fait, j'adore tout ce qui est recherche de sens, croissance individuelle, etc. Mais les pratiques BDSM peuvent parfaitement être abordé juste par le prisme du plaisir, juste comme amplificateur de plaisir d'une sexualité plus classique, plus conventionnelle. Tout simplement, ça peut être juste pour s'amuser, en fait. C'est largement suffisant comme raison pour y aller, ou alors ça peut être juste la curiosité qui nous y emmène.
Ah oui, non, je précise que justement, je ciblais certains discours et pas le tien, et par ailleurs, contrairement à quelqu'un comme Axel de Sade, toi, tu parles de toi et de ton plaisir. Elle parle des autres et de comment ils doivent se comporter, pas d'elle.
En même temps, il faut comprendre ces postures de démocratisation comme un moment historique pour le milieu BDSM. Il faut se rendre compte, il faut se souvenir qu'il y a moins de 15 ans de ça, on était les victimes d'une discrimination terrible. C'est-à-dire que soit on était ridiculisé, soit on était psychiatrisé. Le choix, c'était d'être soit des fous, soit des bouffons. Et donc, voilà, dans les 30 dernières années, certaines communautés ont réussi à s'extraire de la marge, on va dire. Et ça s'est passé dans un ordre où, d'abord, dans les années 80, les gays ont réussi à imposer leur voix sur la scène publique. Ensuite, les queers ont pu enfin, face à cet affranchissement par les gays, revendiquer une voix. Et puis ensuite, les attacheurs, les chibaristes ont aussi pu dire, nous, ce qu'on fait, c'est de l'art, et c'est légitime et c'est respectable. Et puis, au bout d'un moment, il reste dans le fond du sac tous les bizarres difficiles à assimiler, quoi. Et donc, quand on se retrouve suffisamment longtemps au fond de ce sac-là, on se dit, moi aussi, j'aimerais bien avoir ma part au soleil, et j'aimerais bien aussi qu'on se rende compte que ce que je le fais en responsabilité, et on n'est pas des malfrats. Si pendant longtemps on a été contraint de se cacher, c'est parce qu'on était poursuivi par les pouvoirs publics, c'est parce qu'on était poursuivi par la moraline ambiante, mais c'est pas parce qu'on était en train de faire des choses répréhensibles. Je pense qu'on est en train de vivre en fait le moment où on commence enfin à avoir un petit accès à la lumière et on peut commencer à parler de...
Ouais, mais on gagne en pouvoir en s'affirmant, pas en se justifiant en fonction des critères dominants qui sont ceux du libéralisme et de l'utilitarisme. Et quand c'est juste une volonté de normalisation, encore une fois, on normalise certaines choses et pas d'autres. Et si tu fais l'analogie avec l'homosexualité, à ce moment-là, il y a beaucoup à dire. Oui. Les couples homosexuels qui ont été mis en avant et intégrés, en fait, c'est ceux qui se marient notamment pour des raisons fiscales, en fait.
C'est ceux qui sont le moins éloignés du modèle dominant, quoi, qui est le plus facile à absorber au premier chef.
Et la réorientation de l'homosexualité, sa normalisation, par exemple, ça crée une mise à distance, par exemple, vis-à-vis des réfugiés homosexuels, vis-à-vis des mouvements trans, par exemple, ça a été une vraie césure il y a une dizaine d'années au moment du mariage pour tous. Et je pense qu'il pourrait y avoir la même chose dans le BDSM sous l'effet, justement, de volonté de normalisation, d'intégration.
Moi, j'ai l'impression que, comme le moment étant celui-là, plusieurs stratégies s'essayent, et puis on verra dans le long terme laquelle est la plus porteuse, la plus fructifaire, quoi, la plus.
On ne fera pas croire que ceux qui créent des entreprises et qui vont les vendre dans Combini le font juste pour déstigmatiser. Ils ont quelque chose à vendre.
C'est pas impossible qu'il y ait une intention, mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, parler du BDSM à un grand public, c'est une mission un peu compliquée parce que on ne peut pas être purement laudatif, on ne peut pas que en dire du bien. C'est un milieu comme tous les milieux où il se passe aussi des choses qui sont détestables. Mais si on s'adresse à des gens qui débutent et qui ont déjà des réticences et des craintes personnelles, qui assez compréhensible, parce que c'est stigmatisé, c'est encore stigmatisé aujourd'hui, je veux dire, c'est pas banalisé, tranquille, il faut quand même leur dire que c'est un parcours du combattant peut-être, mais il y a des joies qui sont impossibles à trouver ailleurs. Et donc, c'est réussir à équilibrer ce discours qui est un peu funambulique.
Est-ce qu'on essaierait pas de trouver du sale, du subversif en musique ?
Oh, ça doit
du
se trouver.
Pas normal, du pas normal.
Du bizarre, on veut du bizarre.
Mais alors dis-moi Ruban, qu'est-ce qu'on envoie, Ruban ou Dark Lily ?
Un petit Neubotten peut-être pour faire sentir le type d'énergie qu'on aime avoir surgir en soirée et qui est à mon sens très bien porté par ce morceau Furio.
D'ailleurs, personne n'a divulgué son Safe World encore là.
C'est vrai pour l'instant.
Après c'est peut-être Secret Défense, je sais pas.
Confusion dans le cœur. On y a rien, on y a rien, on y a rien, on y a rien. Fille, une guille. Rêve frais.
Konfusion, eine Kernfusion. Und das ist nichts, aber es beschleunigt. Und wenn es nur beschleunigt, was ohne Hilfe geht, ist es kein Vergehen. Durchaus zu verstehen. Und ein Grund mehr.
Sur Frisson, dans le canal B, et à l'instant c'était, je vais essayer de le faire bien, Einstürzen de Neue Bauten.
Ah, c'est ça ton Safe World. Putain, c'est chaud.
Quand il se met à parler allemand, c'est qu'il en peut plus, quoi.
Ouais. Ça fait du bien un petit peu d'allemand, quoi, dans une émission BDSM. Il y a ce truc d'autorité tout de suite. Que...
Ça marche bien, c'est vrai.
Bah oui, t'as envie d'obéir.
Beaucoup d'ailleurs, de Français l'ont fait.
D'ailleurs, bon, mais j'avais envie d'arrêter le sérieux parce qu'on a beaucoup été sérieux là jusqu'à présent.
Ouais. C'est vrai, trop. Ouais.
Mais bon, puisqu'on parle des Allemands, quand même, Libre d'obéir, c'est quand même le titre d'un bouquin de Johann Chapoutot sur le management nazi.
Oui, je suis censé répondre quoi ? Oui, c'est vrai. Oui.
Eh ben, je trouve
c'est vrai,
que
Guillaume, c'est bien.
Libre d'obéir. Le titre résonne par rapport à ce que vous m'avez dit. Alors évidemment, c'est pas du tout dans le même sens que celui de Johann Chapoutot, mais il y a quand même cette idée que bah, si on décide d'obéir, qui est le dominant, qui est le dominé, qui obéit à qui, quoi.
Alors il faut essayer de se souvenir que c'est toujours le soumis ou la soumise qui institue le maître ou le dom. Et donc c'est la personne soumise qui a entre les mains les tenants et les aboutissants de la relation. Et, il suffit d'un nom pour mettre à plat tout le petit univers du maître ou de la maîtresse qui peut s'effondrer comme ça sur simplement un mot de trois lettres, mais qui est un mot qui, dans notre communauté, est célébré. C'est un mot qui est toujours une bonne nouvelle. Un nom, c'est la capacité de formuler ses limites. C'est parfois même l'objet d'une recherche à l'intérieur d'une relation, d'amener l'autre à réussir à dire non. Et c'est quelque chose qui va tout à fait à contre-courant de la vie de la société aujourd'hui, quoi. Et qui, à mon avis, pourrait servir de modèle, en fait, sur la manière dont les individus se constituent face au groupe, face à l'autre. Quel est son principal pouvoir ? Eh bien, c'est de se retrancher de la relation, c'est de dire non, quoi. Mmh. Et donc, cette inversion là, ce dominant qui se retrouve, il faut le penser un peu comme un couple qui ne sait pas quoi faire le samedi soir. Et il y en a un des deux qui dit on ferait pas un truc, et l'autre qui dit un resto ou cinéma. Et en fait, la personne qui dit resto ou cinéma, elle veut être débarrassée de la décision. Elle a passé toute sa semaine à prendre des décisions et à dire on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça comme ça. Et là, le week-end, elle a pas envie d'avoir à trancher, elle a envie d'être surprise, d'être ravie, d'être emportée. Et c'est un peu ce qu'un dominant ou une dominante fait pour son soumis ou sa soumise, c'est-à-dire lui permettre de poser ses bagages, poser ses préoccupations quotidiennes, mmh. et de vivre une surprise. Et ça, du point de vue du consentement, c'est très compliqué, parce qu'une surprise, si on l'explicite, si on l'annonce, ça n'est plus une surprise. Donc quand on veut vivre une surprise, il faut qu'on délègue une responsabilité à l'autre, qui est il faut qu'on suppose que l'autre va prendre une décision qui sera bonne pour nous. Et ça demande à établir une confiance qu'on ne trouve pas sous le sabot d'un cheval, quoi. Ça se construit, ça s'établit avec les années, les expériences réussies, cumulées, et cette confiance, personne ne sait jusqu'où elle permet d'aller. Et c'est ça qui est un petit peu excitant, un petit peu fantastique dans ce monde-là, c'est que nul ne sait ce que la confiance peut.
Et peut-être pour rendre les choses un peu plus concrètes, quelle serait la meilleure surprise que vous avez pu respectivement soit offrir, soit recevoir dans ce contexte-là, en essayant, allez, vous avez chacun 2 minutes, le moment, la surprise la plus succulente, rigolote. On va dire, ou rigolote, comme vous voulez.
Là, ce qui me vient, c'est une expérience assez intense avec mon partenaire. Je ne savais pas ce qu'il allait me réserver comme surprise, parce que là, dans ce contexte-là, j'étais la soumise. Et en fait, il m'a fait ce qu'on appelle un breathe play.
Hein ?
Un jeu de respiration.
To breathe, respirer.
Ouais.
En français.
Et des jeux de suffocation, voilà, si on ça. Voulait traduire.
Donc, en utilisant des cordes, il a réussi à me mettre dans une situation où, si je bougeais, eh bien, la corde se resserrait sur mon cou. Et donc, il y avait une sensation de peur de mourir, puisque il y avait le truc de oh, « je ne vais plus pouvoir respirer ». Et donc, il y avait déjà ce frisson-là. Et il y avait la sensation d'être dans une situation de souffrance. Et au moment où ça s'est arrêté, bah c'est d'avoir senti qu'il y avait quelqu'un qui était là avec moi et qui m'accompagnait pendant un moment hyper dur pour moi. Et en fait, c'est ça qui a été le plus délicieux pour moi et qui a été le plus beau, c'est d'avoir cette sensation que dans un moment aussi dur que celui d'avoir peur de mourir, je ne suis pas seule. Il y a quelqu'un qui est là et qui est puissant et qui veille sur moi. Et effectivement, ce genre d'expérience ne peut pas se vivre si on ne se sent pas en sécurité en vrai. On ne peut pas remettre autant de confiance, on ne peut pas remettre sa vie entre les mains de quelqu'un s'il n'y a pas une confiance suffisante. Et c'est pour ça que ça m'a parlé l'expression tout à l'heure de « libre d'obéir ». Bah oui, si je me sens en sécurité avec la personne, je peux décider, depuis mon espace de liberté, d'obéir.
Et donc, moi, si je devais évoquer une anecdote, ce serait un parcours que j'ai proposé à une de mes soumises, qui s'appelait les 12 travaux de M. C'était son pseudonyme. Et donc, ça consistait en un ensemble de micro-contraintes, des petites contraintes, qu'elle tirait au sort au fur et à mesure de la journée. Et qu'elle avait charge d'accomplir pour avoir accès à la mission suivante. Donc un genre de petit parcours, parmi lesquels, dans mon souvenir, il y avait le maître de passage. J'avais exigé d'elle qu'elle embrasse les pieds d'un inconnu et qu'elle trouve par elle-même les circonstances.
Un inconnu naïf ou...
Un inconnu, exactement, une personne... là, c'était dans un concert, une soirée de concert.
Et de c'était, dire, moi, c'était pas toi, Ludo?
Alors, c'était en quelle année? Parce que ça me dit quelque chose.
Ah, ça devait être en 2023, je pense.
Ouais, c'est ça, tu m'as dit il y a 2-3 ans, il m'est arrivé un peu bizarre.
C'était toi, alors. Et voilà, elle avait la charge de déterminer de qui elle allait embrasser les chaussures, essayer d'imaginer les circonstances qui lui permettraient de rendre ça peut-être convenable ou acceptable dans la vie, ce qui est absolument impossible, mais je savais dans quel piège je la jetais. Mais ça évidemment, ça crée des émotions complètement folles, quoi, au moment de se lancer, au moment de le passer à l'acte, alors que c'est très anodin, ça, je veux dire, ça ne blesse personne, ça active des choses très très puissantes au niveau émotionnel, quoi. Et voilà, quand on trouve une gâchette comme ça et qu'on est un peu sadien comme moi, on s'en sert, quoi.
Et toi, Vivian, j'ai lu des récits de toi.
Ouais, notamment un article que j'ai écrit qui s'appelle « Choses vues à Vilnius ». Donc Vilnius, capitale de la Lituanie. Et donc c'est un reportage que j'ai publié dans l'hebdomadaire en ligne lundi matin, qui, comme son nom l'indique, paraît tous les lundis matins. Et donc vous pouvez trouver cet article en ligne. Là je meuble parce que je me demande comment je vais le raconter. Et donc...
T'as pas le choix, t'es obligé de raconter.
Ouais. Donc c'est un voyage que j'avais fait en fait après avoir entendu la chanteuse Guidré, donc qui est d'origine lituanienne et qui racontait que juste après l'invasion de l'Ukraine, en fait, tout le monde, enfin sa famille, quoi, en gros, se calfeutraient chez eux, aménager éventuellement un bunker, préparer leur sac au cas où fallait fuir si la Russie envahissait aussi la Lituanie. Et j'avais eu envie d'aller voir et de raconter un peu ça, quoi. Genre, je me serais pas vu en Ukraine sous les bombes ou sur une ligne de front. Par contre, aller raconter l'impact de la guerre sur les gens, ça m'intéressait. Et donc, j'avais voyagé un peu seul pendant 2 semaines. Et je m'étais enseigné donc sur FetLife, un peu le Facebook du BDSM dont on parlait tout à l'heure, pour le dire vite, sur les événements qu'il pouvait y avoir. Et donc il y avait une soirée de soutien, soirée BDSM de soutien à l'Ukraine. Donc c'est uniquement pour ça que j'y suis allé, évidemment.
Et moi j'attends avec impatience la soirée de soutien à la France insoumise.
Yes, il faut leur mettre Sévillon.
Dans le paradoxe.
C'est Sévillon qui va l'organiser, je crois.
Bah, oui, soirée de soutien à Gaza, soirée BDSM de soutien à Gaza. Et donc c'était dans un club en fait à Vilnius, et je suis allé quelques fois dans des soirées BDSM dans des clubs, et c'est-à-dire c'est toujours un peu entre les deux, c'est pas des soirées privées, il n'y a pas l'intensité, il y a un côté un peu souvent plus aseptisé, même ça va être de l'ordre de la performance. Dans la première partie de la soirée, il va y avoir un peu au milieu de la salle ou sur scène une personne qui va donner des coups de martinet à une autre juste à côté du DJ qui mixe, et ça va être souvent pas très intense pour pas choquer les personnes qui découvriraient. En gros, on suppose que les gens vont moins loin que dans le privé, et ça va être très esthétisé dans les gestes quasiment mis en scène de l'ordre de la performance, quoi. Et petit à petit, en fait, évidemment, après les performances, ensuite, il y a souvent un peu une transition, quoi. Les performeurs qui ensuite vont un peu improviser, aller plus loin dans la relation, etc. Et ensuite, un peu les gens qui se rencontrent. Et moi, donc, j'y étais allé seul, un peu au dernier moment, quoi. Et souvent, dans ces soirées-là, les gens sont un peu lookés, quoi. Souvent habillés en noir ou un peu en cuir, etc. Et moi, j'avais un t-shirt blanc du club de foot du Havre. Et du coup, toute la soirée, j'avais gardé mon pull bleu marine. J'avais super chaud dans le club. Parce que je voyais pas avec mon t-shirt blanc, quoi. Et donc voilà. Et à un moment, donc il y avait une jeune femme qui était dans une cage. Jusque là, tout était normal, quoi. Et au bout d'un certain temps, donc la personne qui l'avait mis dans la cage l'a fait sortir, etc. Donc elle câline un peu les gens avec qui elle était venue, etc. Après ce moment quand même un peu intense, enfermé et tout. Et je la regarde, je souris, et là elle me tend la laisse qu'elle a autour du cou, quoi. Et on a passé la suite de la soirée ensemble. Peu après, j'avais...
Tu la promenais, quoi.
Ouais, et j'ai notamment à ce moment-là, je sais pas, je l'ai tenu en laisse, on s'est un peu caressé, on a discuté, à peu près une demi-heure après, j'ai engagé la conversation en anglais avec un des performeurs pour lui demander si je pouvais emprunter donc son martinet. Donc je lui avais donné un certain nombre de coups de martinet sur
elle avait fait des bêtises.
Exactement, she was very brat because we spoke in English. On parlait en anglais dans cette soirée avec tous les deux notes anglais parfaits, mais suffisant pour se comprendre. Et donc voilà, donc j'avais emprunté ce martinet, je lui ai donné un certain nombre de coups sur donc la croix de Saint-André, qui est une croix, celle sur laquelle avait été crucifié Saint-André dans les premiers siècles après Jésus-Christ, qui est une croix en forme de X en fait. Voilà, puis on avait nous finîmes la soirée chez elle avec donc sa compagne et un autre gars qui avait été rencontré dans la soirée.
Ça va bien le passé simple.
Ouais. Je racontais ce qu'il y avait dans un de mes articles. C'est juste pour ça. J'y suis allé en tant que reporter. Hein, parce que je m'intéressais à la cause ukrainienne.
Mais je sais pas si les auditeurs ou les auditrices peuvent se représenter toutes les émotions qui peuvent être associées au simple fait de recevoir la poignée d'une laisse dans la main, quoi. Tout d'un coup, il se passe intérieurement des choses qui sont... Il y a un feu d'artifice intérieur qui est...
Bah là, c'était un mélange de surprise et de responsabilité, quoi, de
voilà,
fait.
Voilà, un mélange de
frissons.
D'honneur, de frissons, pour faire un hommage à l'émission.
D'autant plus quand on ne connaît pas la personne et qu'on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'elle veut au juste, et puis le degré d'alcoolémie jusqu'où on va, enfin voilà, ce genre de truc.
Ouais, en tout cas, le sentiment que tout d'un coup le réel se déchire et qu'il se passe quelque chose qui.
Et là, moi, ce que j'entends dans l'anecdote de Vivian, c'est que là. Par rapport au vôtre, c'est que vous, c'est des partenaires que vous connaissez, donc il y a possibilité de d'instaurer un contrat, de se dire un safe word, etc. Puis c'est peut-être des personnes que vous avez déjà...
Un safe word, ça peut se faire très rapidement. Oui. Justement. Ça peut être d'autant plus intéressant. Là, par exemple, il y en avait eu un, parce que justement, on se connaissait pas. Alors que si c'était quelqu'un que je connaissais depuis des années, etc., il pourrait y en avoir un, mais il pourrait aussi ne pas y en avoir, etc. Sur certaines pratiques qui seront beaucoup plus calmes, on sait que la question ne va pas se poser, et là, j'en savais rien, quoi. Mais par contre, oui, de pas savoir exactement jusqu'où on va, là, se poser beaucoup plus de questions sur moi. Ouais.
Le safe word, c'est un très bon outil pédagogique, et c'est quelque chose de rassurant, quoi. C'est un premier pas intéressant, mais c'est aussi un dispositif de sécurité qui a ses limites. C'est-à-dire que moi, dans mon expérience, le moment où la personne devrait utiliser son safe word, elle n'est plus forcément en état de l'employer. C'est-à-dire que le rush des hormones dans la pratique fait que on entre dans un état second. Et donc, dans cet état second, se souvenir si le safe word c'est ananas ou
c'est chaud.
Donc, j'ai lu ça dans le bouquin de papa, si je peux me permettre. le subspace, espèce de d'état orgasme, état second lié à.
C'est un état qui est obtenu. Qui est parfois atteint au cours de pratique, hein, qui doit absolument pas être un objectif, ça ne l'est pas, mais c'est une sorte d'extase, d'entrée en pamoison. Au départ, quand on le voit pour la première fois, on pense à un évanouissement, mais l'expression du visage est tellement détendue, souriante et heureuse qu'on peut pas se méprendre, quoi. C'est un évanouissement heureux. J'ai une soumise me l'a une fois décrit en parlant d'une noyade heureuse. Elle le vivait comme un. Donc c'est paradoxal, ça fait un peu flipper, c'est vrai. Mais il faut imaginer que c'est un état où le cerveau choisit de se déconnecter. Il rend les armes, il abandonne.
Si j'ai bien compris, toi, tu n'es que. Un dominant ?
Moi, je suis que dominant. Je n'ai jamais switché, hein, parce que Dark Lady, qui est ici, elle est capable de ça. Elle est capable de passer d'un rôle à l'autre.
Et t'as jamais eu envie de connaître le subspace ?
Non, absolument. C'est-à-dire que c'est même pas une question d'en avoir envie, c'est que je ne me crois pas capable de l'atteindre. Ce que recherchent les personnes soumises, c'est un lâcher-prise. C'est de tout d'un coup pouvoir tout lâcher et que le reste du monde s'occupe de ce qui lui arrive. Tandis que moi, je suis plutôt inquiet d'avoir le contrôle, d'avoir la maîtrise de la situation. C'est plutôt ça qui me fait du bien. C'est quand je sais que c'est moi qui ai les manettes en main. Et donc, chacun va vers ce qui lui manque. Hein. Moi, c'est plutôt cet aspect-là, quoi. C'est la domination.
Et toi, Dark Lily, tu as connu cet état ?
Le subspace ? Mm-hmm. Oui, je pars très rapidement en subspace lors de jeux. J'aime D'accord. beaucoup cet état-là. Je le cherche pas, mais effectivement, ça arrive tout seul et c'est un état incroyable. Et effectivement, il faut du temps après pour revenir dans l'état normal, même une fois que le jeu s'est arrêté.
Et quelle différence tu ferais entre, je dirais, l'orgasme classique, même s'il n'y a pas forcément d'orgasme classique, et le subspace ?
Alors, l'orgasme classique, au sens où tu l'entends, pour moi, il est surtout physiologique. Il se passe dans le bassin, et c'est une décharge d'énergie. Alors que le subspace se passe... dans la tête, c'est clairement dans la psyché que tout se passe. Il y a un vrai lâcher prise. C'est un moment où on s'abandonne et on abandonne quelque chose. Et c'est pour ça que ça nous allège, en fait. Et c'est un moment assez indescriptible.
Et qui peut faire un peu peur quand on y assiste et que c'est la première fois.
Oui, c'est arrivé qu'on s'inquiète en me voyant en plein subspace. Je venais de vivre une suspension complète en Shibari. Et du coup, j'ai eu besoin d'une bonne vingtaine de minutes avant de pouvoir à nouveau parler et pouvoir me mettre debout et me rhabiller. Et donc, il y a quelqu'un qui s'est inquiété dans la pièce alors que tout allait bien, je me sentais parfaitement bien.
En tout cas, ce n'est pas le moment de prendre des grandes décisions ou de signer un prêt. c'est un état vraiment de conscience altérée. Hein.
Ça peut être aussi provoqué par le fait qu'il y a eu beaucoup... Si jamais il y a eu de la douleur physique... peut-être suite à une séance de flagellation, eh ben on a un gros shoot d'endorphine qui se produit. Et donc l'état de bien-être à ce moment-là, il est difficilement égalable.
Waouh ! Faut que je médite.
disons que c'est le parcours narcotique, mais DIY. C'est des drogues qu'on produit nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est... Voilà, c'est à savoir.
Vivian, tu voulais annoncer la marche de demain ?
Ouais, bah, la marche des fiertés qui se tient donc demain à Rennes. Les débuts des discours, c'est à 13h à Charles de Gaulle et la marche se tient à 14h au départ de Charles de Gaulle. Dimanche, la fête de la musique si vous survivez à la canicule. Il y a notamment le concert de The Laser Gallery à 21h30 au Penny Lane. Margaret Chatchos qui joue à 22h à la Cavale. Et mercredi soir, rassemblement pour la Palestine à 18h30 à République. À la fois contre le massacre qui continue à Gaza, on est à plus de 1000 morts depuis cette semaine à Gaza depuis le soi-disant cessez-le-feu d'octobre dernier. Le ministre de la sécurité israélien a annoncé hier que le sud du Liban et la totalité du Liban devaient brûler, je cite, et donc c'est à 18h30 à République mercredi soir, et c'est aussi un rassemblement de soutien aux personnes qui vont passer en procès pour avoir défendu la Palestine, notamment Anas Kazib, le porte-parole de Révolution Permanente, et Rima Hassan bientôt. Et voilà, je crois que là c'est le moment d'un dernier morceau. Dark Lily, t'avais une proposition, c'est ça ?
Comment ?
T'avais une proposition ? La fessée.
On se termine avec une bonne fessée.
Ouais.
C'est de qui ? Luce ?
De Luce.
Ok.
Bah merci beaucoup, c'est la fin de cette émission.
Merci à vous.
Merci de cet accueil.
Et puis à la prochaine, cœur cœur bisous les amis.
Yes, cœur cœur bisous.
Puis-je m'asseoir sur vos genoux ? Accordez-moi juste un instant. J'ai encore fait une grosse bêtise. Je comprendrai que l'on m'inflige un châtiment. J'ai été extrêmement désobéissante. J'ai été vilaine, vilaine. Alors si monsieur veut bien se donner la peine de me donner de la peine. J'aime entendre vos mains claquer. Quand je me cambre, j'ai besoin d'être corrigée. J'ai été méchante, méchante, méchante. Je veux le doux soufflet de vos réprimandes, je crois que j'ai bien mérité une grosse fessée. Je veux sentir ma peau brûler, mes joues rosir, bien installée sur vos genoux, mon sang bouillir. Quand mes fesses seront embrasées, je vous laisserai les embrasser et puis m'étreindre. C'est un incendie. Venez m'éteindre. Venez. Quand je me cambre, j'ai besoin d'être corrigée. J'ai été méchante, méchante, méchante. Je veux sentir le doux soufflet de vos réprimandes. Je crois que j'ai bien mérité une grosse fessée. J'aime entendre vos mains claquer. Quand je me cambre, j'ai besoin d'être corrigée. J'ai été méchante, méchante, méchante. Je veux sentir le doux soufflet de vos réprimandes. Je crois que j'ai bien mérité.